Everything is so good.
C'est bon. Attends, on n'a pas de retour.
Allez-y.
On n'a pas de retour.
Ouais, si, si, moi, oui.
On n'a pas de retour. Non, là, j'ai pas de retour. Vas-y, reparle.
Moi, j'ai eu du retour, là.
Ah, vas-y, parle au micro. Parle, Roselyne.
Allez-y, parlez.
Ah, voilà, ça y est, on t'entend. Non, non, mais on n'avait pas de retour. Là, on a un retour.
Ouais.
Voilà. Okay. On va parler. On va parler, tu peux nous faire confiance, on va parler. Donc, on est content de vous retrouver, tous auditeurs et auditrices de Radio Galère, avec donc Habib, fidèle à son poste, Roselyne dans sa cabine, et puis une invitée du jour qui sera là d'autres fois, puisque c'est une nouvelle service civique, Sonia, qui prend son service, donc pour 6 mois à Radio Galère, avec une autre de tes consoeurs, appelons ça comme ça, qui fait la même chose pendant la même période. Donc bienvenue à Sonia à Radio Galère. Radio Galère qui, je souligne toujours, accueille beaucoup de stagiaires pour essayer de donner une ouverture sur le monde, une ouverture professionnelle à des jeunes gens et des jeunes filles, voilà, où ils apprennent sûrement beaucoup. Alors, on va commencer cette émission par faire une présentation de la situation internationale telle qu'elle est, parce qu'évidemment, vous êtes tous centrés sur l'actualité des législatives françaises, et ces incertitudes qui ne sont pas nulles, bon, j'y reviendrai, mais il faut savoir que sur la scène internationale, ce qui domine partout, c'est l'incertitude. Je vais commencer par les États-Unis et je serai très très bref. Vous savez qu'il y a eu la semaine dernière le grand débat entre les deux candidats, au moins ceux qui sont affichés jusqu'à ce jour, donc Joseph Biden et Donald Trump. Ce débat a été un peu désastreux pour son contenu, pour les difficultés d'expression du candidat démocrate. Et c'en est arrivé à un point où, dès le lendemain, dans une partie des grands journaux des États-Unis, il était question d'envisager le changement de candidat démocrate. Alors c'est encore théoriquement possible. Ce serait un bouleversement complet. Et en face, on a un Trump qui profite de la situation, qui n'a pas beaucoup progressé dans sa façon de faire de la politique. Mais je veux dire, ce qu'ils sont tous les deux, c'est à l'image de ce qu'est la politique aux États-Unis, c'est-à-dire extraordinairement dépendante des questions d'argent, de financement. Qui paye quoi? Qui paye quelles questions? Qui est sponsor de machin ou de truc? Qui a arrosé tel candidat et tel autre, etc. Il faut savoir qu'on a une démocratie qui n'est qu'une démocratie pour les apparences qu'on veut bien nous lui accorder, mais c'est l'argent qui décide de tout aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être sénateur si vous n'avez pas des gens qui vous mettent des centaines de millions de dollars dans votre poche. Même chose pour la Chambre des représentants. Il faut un peu moins d'argent pour la Chambre des représentants. Pour le Sénat, c'est évident. Pour les gouverneurs, c'est évident. Et pour arriver à une candidature à la présidence, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est des centaines de millions de dollars qui sont en jeu. Et effectivement, après, tout élu se trouve devoir rendre des comptes à ceux qui l'ont mené au pouvoir, c'est-à-dire à ceux qui l'ont financé. Et donc il va être obligé, de ce qu'on appelle grossièrement chez nous, renvoyer l'ascenseur. Parce que vous ne pouvez pas dire à Lockheed, quand Lockheed a dit « bon, je te mets tant d'argent dans la caisse », et puis après dire « j'arrive, ah oui, je ne t'achète pas d'avion ». Ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce système des États-Unis, il est coincé dans ce système de financement qui est absolument rigide et auquel tous les grands candidats, enfin pour arriver à la candidature à la présidence, il faut passer par là, sont soumis. Donc ne rêvons pas à cette démocratie de rêve. C'était peut-être vrai du temps d'Alexis de Tocqueville. C'est plus tout à fait pareil. Bon. Donc les États-Unis sont en difficulté parce qu'ils ne savent pas du tout comment va se passer l'élection présidentielle du mois de novembre de cette année. Et donc ça veut dire que tous les pays, et je pense en particulier à Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul, tous les pays qui avaient le regard rivé sur la Maison-Blanche, sur le Pentagone, sur le département d'État, pour savoir dans quel sens soufflait le vent, parce qu'ils en sont très dépendants, sont un peu désorientés, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va sortir du capharnaüm de Washington, que j'ai résumé très très grossièrement. Et donc, effectivement, on a beaucoup de gens sans boussole. Les gens dont la boussole, c'était Washington, pour l'instant, l'aiguille bouge, et on ne sait pas où elle va s'arrêter. première donnée sur la situation internationale, mais c'est très très important, parce que qui dit une aiguille qui bouge dans la boussole états-unienne, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que va faire l'OTAN, on ne sait pas si l'OTAN va bombarder la Russie ou ne pas la bombarder, on ne sait pas si l'OTAN va arrêter d'envoyer de l'argent à Netanyahu, on ne sait rien. Hein. Donc c'est ça qui est très très important à intégrer quand on réfléchit même à la situation électorale dans les jours qui viennent en France. Il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas où est leur nord. Alors nous, nous le savons, mais pas eux, hein, parce qu'ils dépendent d'un or payant, d'un or stipendié, etc. Bon, ouais. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, et c'est du même ordre, à une taille juste un tout peu plus petite, c'est au niveau de l'Union européenne. Il ne vous a pas échappé que nous avons élu un nouveau Parlement européen. Il vous a peut-être échappé, parce qu'on en a beaucoup moins parlé, que le sommet des chefs d'État de l'Union européenne s'est réuni la semaine dernière et qu'il a pris la décision sur l'organisation et les personnes qui vont diriger la Commission européenne. Commission qui, je le rappelle, ne rend aucun compte à personne. C'est une commission désignée. Donc ce n'est pas vous ni moi qui allons porter ou qui avons porté, qui avons renouvelé Mme Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne.
C'est ça.
Ça, c'est la deuxième donnée. Il faut ajouter que deux personnages se sont ajoutés à Mme von der Leyen, qu'on connaît maintenant puisqu'elle est à son deuxième mandat. Un personnage qui est président, qui est plus un président, j'appelle ça les présidents chrysanthèmes, je reprends toujours l'expression de De Gaulle, c'est-à-dire celui qui est président mais qu'on ne met pas au courant de tous les dossiers puis qui supervise. Donc il y a un vieux monsieur portugais socialiste, ça fait joli, ça fait centre-gauche, centre-droit, on n'en parle plus. Ça fait partie des équilibres internes à la communauté. Et puis alors, le troisième larron, c'est une larronne. Alors là, je m'arrête deux secondes sur la larronne, parce que vous n'avez pas entendu parler. Elle s'appelle Madame Kaja Kallas. Bon, première inconnue au bataillon.
On connaît pas.
Elle est beaucoup plus jeune que les deux autres. Elle est Premier ministre de l'Estonie. Alors l'Estonie, c'est le troisième, le plus au nord des trois pays baltes, qui sont depuis longtemps des pays qui sont très hostiles à la Russie. Ils étaient hostiles à l'URSS, etc. Et si on la met, elle, au poste de responsable des affaires étrangères de la Commission européenne, on fait le choix de dire, de toute façon, notre ennemi, ce sera la Russie pendant 5 ans de mandat. Que les choses soient bien claires. On dit de cette dame qu'elle mange un russe tous les matins au petit déjeuner. C'est pour donner. Voilà. Bon, je pense qu'ils n'exagèrent pas. Bon, on les connaît. Hein. Alors, c'est vrai en Lituanie, c'est vrai en Lettonie, mais elles, ils l'ont spécialement choisi pour ça. Donc, à la limite, vu de Moscou, on peut dire que c'est une provocation. Hein. On sait qu'on ne pourra rien faire avec elle et qu'on ne pourra rien discuter avec l'Union européenne, bon, avec la Commission européenne. Ce qui risque de se passer, ça c'est la première donnée, donc là aussi c'est flou, ben, c'est flou. C'est quand même une orientation, le fait que cette dame soit future responsable de la politique de la Commission européenne, c'est un peu inquiétant, ça va dans le sens du chaos supplémentaire, guerre supplémentaire, est-ce qu'on va bombarder Moscou, etc. Tout ça qui était déjà dans le discours de Macron, mais qui est confirmé dans ce choix. Il reste une chose quand même qui est importante, c'est que le Parlement européen, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, on l'a dit à longueur d'émission pendant la campagne, il a quand même le pouvoir d'approuver cette équipe. C'est-à-dire cette équipe, elle est approuvée par les chefs d'État qui se réunissent. Il faut que ce choix soit validé par le Parlement européen.
C'est la continuité, quoi.
Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de risques. Encore que, c'est là aussi, il y a un désordre généralisé. Alors j'insiste, alors désordre au niveau du Parlement européen, pourquoi ? Alors jusqu'à présent, le bloc autour de Mme Ursula von der Leyen, c'est un bloc dans un groupe parlementaire spécial à Strasbourg, qui s'appelle le PPE, qui est largement dominant, qui en plus a un coup de main de la part du bloc de gauche, des socialistes du genre du portugais qui a été nommé président, et donc qui arrive à avoir une majorité assez stable et qui fait à peu près ce qu'il veut. Bon. C'était comme ça. Il se trouve que quand même, il y a un groupe qui est plus à droite, appelons-le d'extrême droite pour faire simple, de parlementaires européens, qui est renforcé maintenant par l'arrivée de Mme Meloni, Premier ministre italien, on appelle ça président du Conseil, qui lui est un gouvernement carrément d'extrême droite revendiqué, bon. Et qui trouve qu'on ne lui a pas fait de place. Non, effectivement, c'est le centre-droit qui gouverne à Bruxelles et à Strasbourg et qui veut continuer. Et Mme Meloni est très fâchée. Mélanie est très fâchée, elle commence à dire « mais qu'est-ce que c'est ? Nous sommes de plus en plus nombreux ». Alors, ils sont moins nombreux dans leur groupe parlementaire que le groupe du Parti populaire européen, mais ils commencent à être plus nombreux, ils vont pouvoir parler fort, et puis il y aura tous les nouveaux élus de Marine Le Pen qui vont arriver, et puis d'autres, vous savez, dans d'autres pays en plus. Alors, ils ne sont pas encore majoritaires, ils ne sont pas du tout en train de prendre le pouvoir à Strasbourg et même au Parlement européen, mais ils sont nombreux et ils se mettent à parler. Ils vont se mettre à parler plus fort. Hein, c'est l'évidence. Et la première qui a parlé plus fort, c'est Mme Meloni. Elle a dit, mais moi, alors j'ai rien, alors que j'augmente, je suis puissante, je gouverne un des 27 pays, il n'y en a pas d'autres pour l'instant, hein, et donc je voudrais plus de place. Alors, ça se négocie dans les coulisses, parce qu'il faut savoir que là, la démocratie citoyenne n'arrive pas jusqu'à ce niveau. À Bruxelles, il n'y a plus de démocratie citoyenne, ça se discute dans les couloirs, dans les brasseries, dans les chambres d'hôtel, tout ce qu'on veut. Et donc, Mme Meloni voudrait un poste officiel représentant, qu'on va peut-être lui trouver, pour montrer que quand même, l'extrême droite est là en Europe, fait partie du dispositif politique. Et ça aussi, c'est un facteur d'incertitude au moment où je vous parle. Ce n'est pas réglé du tout.
Bernard, pardon.
Je t'écoute.
Le 1er juillet, c'est-à-dire hier, l'Union européenne est sous la présidence de la Hongrie, qui ne souhaite pas continuer à fournir l'Ukraine en armes, etc.
La présidence, c'est la présidence des conseils des ministres. Ce n'est pas la présidence de la commission. L'exécutif, c'est la commission. La commission, c'est Ursula. Donc, depuis hier, effectivement, la présidence tournante, qui est une présidence pour 6 mois, donc du conseil des ministres, donc des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, est présidée par la Hongrie. C'est une présidence tournante et c'est une présidence un peu symbolique, en sens que présidence, il donne la parole, il admet l'ordre du jour et tout. Alors, mais ça, il y est arrivé depuis hier, c'est vrai. Ce qu'il a fait de plus... Et ça, c'est encore un élément nouveau de désordre général, parce que on est bien dans ce désordre général. C'est qu'il est allé voir son petit copain autrichien, qui est aussi à l'extrême droite que lui, en gros. Et puis il est allé voir l'ancien premier ministre tchèque, qui est aussi proche de l'extrême droite lui aussi. Et ils ont dit, maintenant, on fait un nouveau groupe parlementaire à Strasbourg. Pour l'instant, ils ne sont que 27, mais encore 3 de plus. Et ils ont un autre groupe qui n'est pas celui où sera Mme Meloni. Donc on a là, potentiellement, ils vont y arriver, un autre groupe parlementaire, d'extrême droite lui aussi, mais qui, à la différence totale de Mme Meloni, sera, et ça a déjà été dit par les 3 organisations, sera totalement en désaccord sur la poursuite de la guerre contre la Russie. Bon. Donc vous voyez que même là, dans l'extrême droite européenne, on a les 2 fers au feu. On ne sait pas du tout quelle est la position qu'il emportera. Bon, ça me fait simplement confirmer que le désordre est à peu près total dans le camp occidental. Le désordre, on l'avait vu sur la question palestinienne, on va le voir sur d'autres questions, et sur la question de la guerre en Ukraine, il est à peu près complet. C'est dans ces conditions qu'il faut resituer la situation française, qui forcément, alors même si ces messieurs à la télévision hier soir ou avant-hier soir n'en ont pas parlé, eux, ils savent bien que le désordre est partout, qu'à Washington, on ne sait pas qui est au pilote, qui est aux manettes, à Bruxelles, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, et donc ces messieurs marchent sur des œufs. Alors même s'ils font des grands discours, on va faire ceci, on va faire cela, ils n'en savent rien. Ils en savent d'autant moins pour les futurs gouvernements français qu'il est certain de toute façon, et ça a déjà été annoncé, que l'Union européenne, et en particulier la Commission, va serrer la vis financière de la France. Pourquoi ? Parce que la France est maintenant le 2e pays le plus endetté d'Europe, juste après l'Italie, et que donc de toute façon, ça veut dire... Ça ne veut rien dire sur ce que fera un gouvernement français dans les semaines qui viennent. Ça veut simplement dire que quand il annoncera des mesures budgétaires, Bruxelles lui dira « ça, c'est pas possible. Tais-toi. Hein. C'est non. Tu peux pas. Bon. » Donc, vous voyez, dans quelle situation il va se trouver. Alors, il va annoncer des tas de choses, et puis finalement, il ne pourra pas le faire. Je fais quand même... Alors, vous avez trouvé que c'est un propos partisan. Le seul groupe... Qu'est-ce qui se passe ? Le seul groupe qui a pris soin... Mais c'est passé complètement inaperçu, de chiffrer son programme et de voir comment il allait le financer. C'est le groupe du Front Populaire, à travers les travaux de l'économiste bien connu qui s'appelle Thomas Piketty, qui a dit « voilà comment nous finançons notre projet de programme ». Mais les autres n'ont rien dit. Les autres n'ont rien dit, parce que ça veut dire qu'ils parlent en l'air, ils ne savent pas trop comment ils feront, et ils savent que de toute façon c'est Bruxelles qui tient là-bas, et c'est Bruxelles. Alors c'est Mme von der Leyen et Mme Christine Lagarde. À la Banque Centrale Européenne qui fixe les taux, etc. Bon. Donc là aussi, le gouvernement qui sortira dans 8 jours, en gros, des urnes françaises, sera un gouvernement qui sera là, le nez en l'air, en train de regarder d'où vient le vent de Washington, d'où vient le vent de Bruxelles, d'où vient le vent de Francfort, donc de Mme Christine Lagarde, et puis il fera avec. C'est-à-dire que ce n'est pas pour vous dire que ce n'est pas inquiétant ce qui risque de se passer en France dimanche prochain, mais en fait, il faut savoir que de toute façon, toutes les cartes ne sont pas dans les mains de celui qui arrivera en disant « Je suis Premier ministre ». On ne sait pas encore qui c'est, on verra bien. Voilà. Oui, je t'écoute.
C'est l'heure d'appeler Yannette.
Voilà. Alors voilà, cette présentation est en fait... je vous ai montré la table. Alors la table, elle est très compliquée, elle est mouvante. Et donc, ayez ça aussi dans votre tête, parce que les raisonnements définitifs qu'on va vous mettre en circulation dans les oreilles dans les jours qui viennent ne tiennent pas tous debout. Et au contraire, ils sont fondés sur du sable dans beaucoup de considérations. Voilà. Maintenant, on va passer à une étape plus concrète de l'émission, c'est-à-dire qu'on va appeler une correspondante bolivienne qui est à Paris, avec laquelle on va faire le point sur la tentative de coup d'État qui a eu lieu la semaine dernière à La Paz, en Bolivie, et qui a échoué. Et donc, on va avoir donc Yannette, je donne tout de suite son prénom, je pense qu'on va l'avoir en ligne, et on va parler avec elle, elle va nous faire le point de la situation après cette tentative de coup d'État. Je ne sais pas si on l'a maintenant... On est en train de l'appeler. Alors, je rappelle qu'effectivement, il se passe quelque chose d'assez étonnant, mais sur lequel elle va revenir, c'est que tout d'un coup, un général important se met à dire qu'il faut qu'il intervienne dans le champ politique pour régler un problème qui est au sein de la majorité politique du gouvernement bolivien. Alors, première observation, je pense qu'elle va le redire, ce n'est pas le travail d'un général de dire quelle est la façon dont il faut régler un conflit dans la majorité parlementaire. C'est un conflit politique, ça doit se régler entre politiques. Alors, ce conflit, il se situait entre M. Luis Arce, donc actuel président de la République, et l'ancien président de la République, M. Evo Morales, qui voudrait bien se représenter, mais qui en est empêché par un arrêt de la Cour constitutionnelle lui interdisant de faire plus de mandats. Il s'accommode assez mal de cette position de la Cour constitutionnelle. Et donc, il y a depuis plusieurs mois une tension évidente entre les partisans de M. Arce, donc on va dire les légitimistes. Ce gouvernement est en place, il a été élu. Il a été élu à la suite d'une tentative de coup d'État que les Boliviens ont déjoué. Je rappelle qu'en 2019, il y a eu un vrai coup d'État, là, avec effectivement des risques militaires très très forts et des morts, etc. Et M. Morales, qui voudrait bien revenir au pouvoir comme fondateur du parti aujourd'hui au pouvoir. Bon. Et effectivement, le droit l'en interdit. Mais ses ambitions sont toujours là. D'où cette tension. De toute façon, ce n'était pas un général, quel qu'il soit, de régler ce problème politique. Ce problème est un problème politique, il doit se régler politiquement. Les généraux sont bien dans leur caserne et quand ils doivent intervenir, ils font la guerre. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, c'est une incidente que je fais sur l'armée bolivienne. L'armée bolivienne se prépare à la guerre contre qui ? Je ne sais pas trop. Et donc, je pense qu'une partie, ça, c'est la vieille histoire de la Bolivie, une partie de l'histoire de la Bolivie et de ces pays-là vient au fait que les armées n'ayant pas d'objectifs militaires, ils n'ont pas... la Bolivie ne va pas envahir le Pérou, ne va pas envahir le Chili, ne va pas envahir l'Argentine. Et donc, ces militaires tournent un peu en rond. Ils ont des soldats, ils ont des armes. En général, ils sont assez bien armés, etc. Et puis, à quoi ils servent ? Ben, effectivement, il y a des moments où ils ont envie de faire de la politique alors que ce n'est pas leur métier. Et donc, il faut rappeler, c'est ce que le président Arce a fait tout à fait correctement, il faut rappeler aux militaires qui sont là pour faire la défense du pays. Ils ne sont pas là pour faire de la politique.
Sécurité du pays, oui.
Voilà, c'est tout. Et donc, je pense que Yannette va nous expliquer ça quand on l'aura en ligne. Dernière chose qu'il fallait situer sur la Bolivie, c'est, je ne sais pas si elle aura le temps d'en parler, mais M. Milei, donc le nouveau Premier ministre argentin dont on a déjà dit quelques mots et qui est lui un personnage extrêmement inquiétant, qui va faire beaucoup de mal à l'Argentine et à ses habitants, M. Milei, lui, a soutenu l'hypothèse que, effectivement, c'était le président actuel, le président Arce, qui avait organisé cette tentative de coup d'État pour se faire mousser. Bon, il n'en avait pas besoin. D'ailleurs, il n'a pas eu besoin de se faire mousser. Il a arrêté l'opération et c'est le peuple de La Paz qui l'a soutenu en descendant massivement.
Je pense aussi qu'il y avait le problème de l'ambassadeur israélien qui a été...
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
ça s'ajoute.
Bien sûr. Et puis, il y a des enjeux, alors sur lesquels je ne sais pas si on aura le temps d'en parler avec Yannette, des enjeux économico-politiques. D'une part, enjeux politiques, les élections présidentielles, les bonnes, là, il y aura normalement l'élection présidentielle en 2025. Et effectivement, il y aura un problème pour le maintien même du MAS au pouvoir, parce que la droite et l'extrême droite bolivienne n'acceptent pas, n'a jamais accepté que ce parti soit au pouvoir et essayera de prendre la place.
Surtout de bonnes relations avec le Venezuela.
Voilà. Et puis l'autre aspect, sur lequel elle n'aura peut-être pas le temps d'insister non plus, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, qu'il y a dans le monde une espèce de quête du lithium. Tout le monde veut du lithium pour faire des batteries, pour mettre partout, on met des batteries, ça vous le savez. Et en fait, il se trouve que les ressources en lithium de la Bolivie, sont les plus importantes du monde. Et que, à la différence de ce qui se passe en Argentine, où il y a aussi de grosses ressources en lithium, et à la différence de ce qui se passe au Chili, malgré que le président soit un petit peu à gauche, la Bolivie a décidé de nationaliser le lithium. Ouais. Et bien entendu, elle le nationalise en disant « c'est moi le maître du jeu, mais effectivement, je n'ai pas les capacités de mettre en place des gros gisements, de faire des traitements, de fabriquer des usines de batteries. Donc je passe des accords avec des gens qui veulent bien collaborer avec moi. Mais je reste le maître de la situation. »
Exact. Ouais.
Et est-ce que vous avez imaginé qui pouvait être l'assistant, celui qui apportait le savoir-faire, la connaissance minéralogique, minière et tout ? C'est la Russie. Une entreprise russe qui s'est proposée pour effectivement exploiter le lithium, faire des usines de batteries sur le sol bolivien, sous la conduite du gouvernement bolivien.
Oui. Alors évidemment, la politique.
Voilà. D'autres préfèrent piller directement les mines argentines ou les mines chiliennes en étant en intérêt privé, sans contrôle du gouvernement. C'est pas comme ça que ça se passe en Bolivie. On ne peut pas l'avoir. Bon, ben si, tant pis. Hein. On va abandonner. Je fais un peu l'émission à sa place. Non, vous n'arrivez pas à la joindre. Tant pis. On va aborder le sujet à son fond. Je lui laissais un peu d'espace par rapport à ça.
Elle est au courant, elle, non ?
Oui, elle est au courant, même si on n'arrive pas à la joindre. Bon, donc j'explique. Donc, on remonte au 24 juin, et ce fameux général, le général Zuniga, dont vous n'avez jamais entendu parler, pris d'un zèle politique dont il aurait pu se passer, fait une interview à la télévision en disant qu'il va arrêter Evo Morales. Donc l'ancien président qui a un problème pour se représenter, qui voudrait bien se représenter, mais qui en droit ne peut pas. Et du coup, il intervient directement à la télévision, il met les pieds sur le champ politique alors que ce n'est pas son métier. Donc le lendemain, on est le 25 juin, il est convoqué par le président, qui lui dit « Mais de quoi tu te mêles ?» Et alors, c'est là qu'on a un coup d'État, alors qui paraît un peu un coup d'État d'opérette, c'est-à-dire il n'arrive pas, mitraillette au poing, en menaçant le président Arce de l'abattre, il arrive en tenue civile, et l'autre lui dit « Mais il faut arrêter, tu n'es pas là pour ça, je t'interdis de continuer dans ce champ-là. Bon. » Et en fait, il accepte. Il accepte parce qu'il sait aussi que la rue bolivienne, elle est là, et qu'il ne pourra pas aller plus loin dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? C'est très simple. Donc, ce général dit « Bon, ben voilà, j'arrête ». Et dans la foulée, le président Arce nomme trois commandants des trois armes. Donc, un commandant pour l'armée de terre, un commandant pour l'armée de l'air, un commandant pour la marine. Il y a aussi une marine bolivienne. Et il remplace donc les officiers généraux commandant l'armée. Et ça se passe très bien. On voit la cérémonie, ça se passe très bien. C'est les nouveaux qui le saluent. Donc, on a un coup d'État tranquille, c'est-à-dire il n'y a pas un coup de feu, il n'y a pas de sang. Le président dit au putschiste, puis c'était quand même un putschiste, tu arrêtes, et l'autre dit j'arrête. Résultat, maintenant, il est en prison, il a même été jugé, et il aura... Alors je ne sais pas si le jugement est rendu, mais c'est 15 ou 20 ans de prison à la clé. C'est pas parce que c'est rébellion contre l'État. Je fais la politique du gouvernement alors que ce n'est pas à moi de la faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, donc, le gouvernement a poursuivi l'enquête, il n'était pas tout seul. Il y avait une vingtaine de militaires qui étaient impliqués et il y avait certains régiments qui étaient prêts à marcher sur la Paz. Donc on n'a pas eu la phase finale horrible.
Il y avait des soldats quand même. Hein, voilà.
Il y en avait quelques forces spéciales autour de lui, mais on n'avait pas un assaut sur la Paz et un assaut sur le palais présidentiel mené par des troupes rebelles. Donc ça a été évité et c'est tant mieux. Mais ça veut dire que de toute façon, la tension est forte et que ces généraux-là, donc là, la vingtaine, il y en a déjà 3 ou 4 qui sont condamnés, les autres seront condamnés à des peines de prison sans doute moins, mais en fait, le coup d'État était quand même prêt. C'est-à-dire, c'est les militaires qui voulaient régler un conflit politique, alors qu'ils n'en avaient pas le droit ni le pouvoir. Donc, on est sorti de ça. Le problème politique, il se reposera à la fin de 2025, puisque là, il y aura, à la date normale, des élections qui auront lieu pour la présidence de la République bolivienne. Et ça sera...
Je pense, étant donné que le peuple est sorti, qu'ils étaient très, très nombreux... Il est solide, il faut savoir qu'en plus
la capitale politique c'est La Paz, et à La Paz effectivement on a les grosses forces militantes du MAS. Alors il y a des régions qui sont beaucoup plus à droite et beaucoup plus irrédentistes dans d'autres zones de la Bolivie, mais côté La Paz, quand effectivement le peuple dit on bouge, ça veut dire des centaines de milliers de personnes tout de suite dans la rue et qui disent non, il faut sauver le régime, ce général-là, on ne veut plus de lui et il ne doit plus nuire. Et donc il ne va plus nuire, il va passer une partie de ses jours en prison. Il n'avait qu'à pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Quant à M. Morales, il a fait un espèce de geste assez étrange, puisqu'il a répondu à M. Milei, le fameux Premier ministre argentin, disant « ce coup d'État a été organisé par Arce lui-même, par le président ». Alors, c'est un peu ridicule, parce qu'un président en exercice dans un pays qui se sait menacé par les États-Unis, qui sait qu'il a des adversaires, y compris sur le terrain, s'amuser à jouer au coup d'État pour voir si ça marche, si ça marche pas, c'est un peu un enfantillage. Alors, dans un premier temps, il a dit la même chose. Alors, c'est assez étonnant. Monsieur Morales, qui se présente comme un leader de gauche, a dit la même chose par rapport au président Arce que Monsieur Milei, qui est un affreux d'extrême droite, anarchiste, je ne veux pas dire du mal des anarchistes, mais un destructeur de toute l'Argentine. Dans un premier temps, il a dit la même chose, et puis après il s'est un peu repris en disant quand même non, il ne veut pas dire la même chose exactement que ce Premier ministre argentin qui est décidément pas présentable, mais il est enfermé dans son impasse, c'est-à-dire que il est sincèrement ou manipulé par d'autres, parce que j'exclus pas ça, parce que sa volonté de revenir au pouvoir doit arranger des gens en disant « s'il revient au pouvoir, ça va mettre encore plus de désordre, ça voudra dire qu'il vient en violant la loi, et à partir de ça, ça nous donnera un point d'appui sur la situation bolivienne, et c'est ça, au fond, que les États-Unis cherchent. » Et j'en arrive aux États-Unis, puisque l'hypothèse que ce sera les États-Unis qui auraient organisé ça, à mon sens, ne tient pas. Pour les États-Unis, ils attendent l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ce coup d'État a été mal préparé et on sait, hélas, tous les peuples d'Amérique latine savent que quand les États-Unis organisent un coup d'État, c'est beaucoup mieux fait que ça. Et il y a beaucoup plus de moyens et il y a beaucoup plus de sang qui coule. Là, on est dans une espèce d'opérette stupide et inutile dont la Bolivie se serait passée. Souhaitons qu'elle s'en sorte. Souhaitons qu'elle puisse continuer ses projets de développement économique sur la base du lithium, sur la base de sa souveraineté économique, c'est-à-dire j'ai des ressources minières, mais c'est moi, gouvernement, qui décide à qui j'en confie l'exploitation. Je garde la maîtrise des prix, je garde la maîtrise des usines, parce que, je ne l'ai pas dit, mais la société russe, elle projette d'une part d'extraire le lithium, ce qui n'est pas simple, et puis dans des conditions techniques très, très compliquées, à 3000 mètres d'altitude, dans des conditions climatiques très très dures, mais elle prévoit de faire une usine de batterie, c'est-à-dire de permettre à la Bolivie de mettre sur le marché international un produit industriel de qualité extrêmement recherché dans le monde entier aujourd'hui. Tout le monde cherche après des batteries en lithium, on le sait. Donc c'est ça qu'il y a derrière. Et évidemment, vu du point de vue des États-Unis, c'est ça qu'il faut casser. Il faut que cette source de lithium, elle tombe, comme la ressource argentine, comme la ressource chilienne, entre les mains des multinationales des États-Unis. Bon, c'est pas le chemin qui est pris par la Bolivie. Donc la Bolivie a un adversaire fondamental qui est les États-Unis. Mais je pense pas que c'est lui qui se soit amusé à jouer M. Morales contre M. Arce. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Et je pense que la leçon servira au président Arce et à son équipe pour bien préparer les présidentielles de l'année prochaine en tenant compte des forces en présence. Là, il a eu un aperçu de ceux qui étaient prêts à trahir et à travailler en fait dans le bénéfice des États-Unis, même si ce n'était pas les États-Unis qui les avaient mis en mouvement. Il y a 21 personnes, donc des complotistes futurs ou réels, qui sont déjà sous les verrous. Et donc, on a déjà un peu clarifié la situation. C'est ça le bénéfice. Mais M. Arce se serait certainement passé de ce genre de comédie. Voilà. Donc, je regrette qu'on n'ait pas eu notre interlocutrice. Ça, le téléphone n'a pas répondu. Non, mais voilà, bon, on ne l'a pas eu. Donc j'ai essayé de faire l'interview à sa place. Je pense avoir dit à peu près ce qu'il fallait dire. Et on va passer à un certain nombre d'autres sujets. Alors, sujet plus petit. Mais là aussi, c'est les questions des manipulations. Un mot sur le Kenya. Vous avez certainement vu apparaître à la une de vos journaux télévisés une espèce d'émeute au Kenya contre un projet de loi fiscale qui était présenté par le président Ruto, le président kényan, et qui n'avait pas l'heure de plaire à la population kényane. Ce projet donc a été abrogé à la suite de manifestations de rue très très importantes, puisqu'il y a même eu invasion du Parlement, invasion de plusieurs ministères, et on est autour de 90 ou 100 morts quand même. Ouais, ça ne s'est pas passé très 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 calmement.
Ça ne se passe pas toujours.
Voilà. Alors il faut savoir qu'on a. Alors il y a des commentateurs qui ont très très vite extrapolé en disant oui, mais M. Ruto, on le sait, et ça vient d'être reconnu officiellement récemment, est le meilleur allié non membre de l'OTAN sur le continent africain. Le meilleur allié des États-Unis. Et c'est confirmé, puisque M. Ruto a envoyé, ils viennent d'envoyer des forces de police pour faire la police en Haïti, puisqu'apparemment les Haïtiens ne sont pas capables de faire la police chez eux-mêmes. Et ça, ils le font parce que c'est M. Biden qui paye le voyage et qui paye la solde des soldats et des gendarmes kényans. Donc effectivement, M. Ruto est à la disposition du gouvernement des États-Unis pour les basses besognes du gouvernement des États-Unis, où que ce soit. Haïti, bien entendu. Alors pourquoi Haïti? Parce que dans la grande perversion intellectuelle de l'impérialisme, il vaut mieux faire assassiner des Noirs par d'autres Noirs. C'est ça l'idée.
Ouais. Hein,
parce que imaginez, vous envoyez des GI blancs, etc., à Haïti, ils seront mal reçus. Hein. En plus, vous les envoyez sous l'étiquette de l'ONU, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est même pas l'ONU qui les envoie. C'est le gouvernement des États-Unis qui délègue des gendarmes haïtiens pour faire la police en son nom. C'est même pas l'ONU. Pourquoi pas l'ONU? Parce que l'ONU a laissé, qui a déjà envoyé des casques bleus en Haïti, a été mal perçue et a laissé un très très mauvais souvenir, puisque d'une part, plus en termes de mauvais traitement de la population, de viol de femmes haïtiennes, voilà, c'est mieux comme ça, voilà, de viol de femmes haïtiennes, et puis de propagation de maladies par le contingent de casques bleus, les troupes sous casques bleus ont assez mauvaise réputation aujourd'hui en Haïti. Il ne restait plus donc à Biden, aux États-Unis, à dire on va trouver quelqu'un qui fait le gendarme, donc on paye un gendarme. Le président Ruto est un sous-traitant, c'est une espèce de société de sécurité des États-Unis sur le territoire haïtien. Et donc tout ça pour le bénéfice de la politique des États-Unis.
Voilà.
J'en dis pas plus, mais il faut bien le comprendre, parce que c'est pas la façon dont ont été présentées ces émeutes à Nairobi. On l'a présenté en disant ça y est, c'est une révolte contre les États-Unis. Je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout, puisque la population kényane est bien, bien encadrée, bien suivie. Le gouvernement kényan est, par rapport à d'autres gouvernements africains, relativement à l'aise, même s'il a des problèmes financiers, mais enfin, on est un peu moins malheureux dans ce pays d'Afrique que dans d'autres, et donc la population kényane n'est pas prête à se révolter contre son régime, contre son gouvernement, même si elle sait qu'il est proche des États-Unis. Ça, c'était une précision à apporter très, très vite. Ensuite, je voulais faire une petite rupture, on va passer une chanson. Repasser une chanson, parce que ce sera une façon de revenir à des sujets très très généraux et à revenir en même temps à la situation française pour faire réfléchir. Alors c'est drôle de passer une chanson pour parler du droit du sol, mais on peut faire une chanson sur le droit du sol. On écoute Maxime de Forestier.
Choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Mali, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Thank you. des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils avouent leur nid, qu'ils rentrent de voyage, qu'ils restent chez eux, ils avouent son leur sou. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on va.
C'est pas le cas à Gaza.
Voilà. Alors, rappel à tous ceux qui n'ont pas compris ce que voulait dire le droit du sol. Ça veut dire le droit de naître égal à l'endroit ouais. où on est, qu'on n'a pas choisi, hein, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion.
Ouais. Hein.
J'insiste parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, on va supprimer le droit du sol ». Ce sont des irresponsables, inhumains, dangereux. Dangereux. Alors, maîtrisez bien cette question du droit du sol. Elle est centrale dans l'avenir de la République française. Ouais. Mmh. J'en dis pas plus, vous comprenez. Bien, ceci étant dit et rappelé et sous une forme la moins agressive possible, c'est une chanson. Pénétrez-vous d'une chanson. C'est une chanson, ne dit pas d'invective, ne crie pas sur celui qui n'a pas compris. Elle dit réfléchis. Pense à des relations correctes avec ton voisin. Pense à ne pas dire « c'est de lui que vient là ». Ne pas chercher le bouc émissaire. Pense à tout ça. On peut vivre en bonne intelligence, surtout entre gens qui sont souvent de la même condition matérielle. Car en fait, ce qui se passe à travers ça, c'est la division dans les couches populaires qui est recherchée. C'est pas la division, il y a des gens de toutes les couleurs dans les banques au niveau élevé. Ça, ça compte plus. Ils sont complètement interchangeables. Ce qui est en jeu, c'est de diviser les classes populaires. Qui profite de la division des classes populaires ? Ben, ceux qui exploitent les classes populaires. C'est, voilà, rappel élémentaire. Bon, il fallait qu'il fût fait. Enfin, et on va donc parler de la Palestine, de ce qui se passe à Gaza et tout autour. Bon, d'une part, au niveau du bilan matériel et humain, la catastrophe continue, c'est-à-dire on n'est pas très très loin maintenant des 50 000 morts, avec en gros 15 000 enfants, 10 000 femmes. Bon, donc la poursuite de l'opération se continue telle que. Il n'y a pas de signe de changement de politique des gens qui alimentent cette guerre, c'est-à-dire qui donnent de l'argent et qui envoient des armes. On n'a rien entendu dire. Alors, il y a de vagues propos humanitaires. Ah, c'est comme on devrait essayer de mieux faire accéder la nourriture, etc. Mais enfin, il n'y a rien qui bouge. Et même, on a une tentative du gouvernement britannique, je m'arrête un peu là-dessus. Vous savez que donc, le procureur de la Cour pénale internationale a dit qu'il allait lancer des mandats d'arrêt contre deux dirigeants israéliens, Netanyahou et son ministre de la Défense, et trois dirigeants du Hamas, puisque les deux étaient dans le lot, les trois. Bon, et ce qui se passe, c'est que le gouvernement britannique a trouvé une astuce, alors je ne vais pas rentrer dans l'astuce, c'est une astuce juridique, pour bloquer temporairement, mais aussi longtemps que possible, cette tentative du procureur britannique, qui est britannique, Karim Khan. Donc, pour l'instant, il est bloqué parce que le gouvernement britannique a trouvé une astuce, une ficelle, une astuce de procédure, on dirait, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour empêcher que, éventuellement, M. Karim Khan puisse mettre cette menace à exécution. Donc, rêvez, braves gens, hein, on n'est pas encore à la veille d'une inculpation et d'un mandat d'arrêt contre M. Netanyahou. Et on en verra probablement d'autres. Alors, je rappelle aussi, puisque je parle droit, que la Cour internationale de justice, qui, à trois reprises, a considéré que les faits relevant du génocide étaient constatés, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. La Cour internationale de justice, quand elle se saisit d'un dossier, là, elle est saisie par différents biais. On a la plainte de l'Afrique du Sud, complétée par la plainte de la Colombie, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais la Cour internationale de justice, pour trancher, c'est-à-dire produire une ordonnance, c'est-à-dire qui dit le droit international, elle peut mettre 10 ans. Alors, compter 10 ans, compter le nombre de Gazaouis qui restent, c'est rien. Hein. Bon, donc, c'est pas, ne rêvons pas. Simplement, elle a fait son travail, c'est-à-dire elle a dit effectivement, moi je considère, vu les éléments qui me sont fournis par les plaignants, que le génocide est en cours. Ça c'est très important au niveau politique, c'est-à-dire pour l'opinion publique internationale, c'est-à-dire c'est reconnu, c'est pas une invention, c'est pas un fait de propagande des dirigeants palestiniens, ni des dirigeants arabes, c'est un fait reconnu. Mais ce n'est pas à aucun moment une condamnation qui n'interviendrait, et je pense qu'elle interviendrait, parce que les faits sont tellement patents qu'elle interviendrait, mais elle interviendrait trop tard. Donc n'attendons pas de la justice qu'elle aille plus vite que la justice. On n'est pas dans le cas d'un référé d'heure par heure ou dans l'heure on a un jugement. Ce n'est pas possible, une Cour internationale de justice avec 15 magistrats venant de tous les pays du monde qui sont nommés par leur gouvernement, qui sont là pour des carrières assez longues, qui sont déjà, quand ils arrivent à La Haye, dans ce tribunal, au fait d'une carrière. Quelqu'un qui arrive et qui finit sa carrière, un magistrat, qui soit français, suédois, tout ce qu'on veut, qui arrive dans cette instance-là, c'est quelqu'un qui finit brillamment sa carrière. Bon, ce n'est pas des gens qui jugent en 5 minutes. Hein. Et donc, effectivement, il n'y aura pas de jugement de génocide avant longtemps. Simplement, il y a un affichage. Et donc, tous les gens qui veulent réfléchir à la situation à Gaza et en Palestine savent qu'effectivement, le génocide est en cours. Ce que les images montrent. Mais en plus, là, on a une autorité. C'est l'ONU qui se mouille. C'est l'ONU qui dit, oui, effectivement, le génocide est en cours.
Ouais, mais on ne fait rien non plus.
Mais voilà, parce que la Cour internationale ne juge, elle peut juger, elle pourrait juger le jour où elle jugera, mais elle n'a pas des moyens même de faire appliquer.
Et en plus de ça, la Cour internationale, elle a été placée par qui?
Alors la CPI, c'est autre chose. Non, la Cour internationale de justice, c'est l'ONU.
C'est l'ONU, c'est l'ONU. Oui.
Mais la CPI, elle a été créée par les États-Unis pour ne pas s'y soumettre eux-mêmes, puisqu'ils n'ont jamais signé les accords de Rome. Bon, ouais. Donc, laissons-les à leur juste place, qui n'est pas très, très important.
En attendant, c'est les autres qui meurent.
Voilà, exactement. Alors, pour ce qui est de la situation sur le terrain, d'une part, bon, sur Gaza, on ne peut pas faire plus de commentaires, ça continue exactement à l'identique, au rythme de centaines de morts assassinés tous les jours. Mais là où la situation évolue, c'est du côté du Nord et du côté du Liban. Puisque l'élément nouveau, c'est que le gouvernement israélien lui-même menace d'envahir le Liban. Ça, c'est très, très important.
Sous couvert de l'Amérique.
Voilà. Alors, il menace. Voilà. Parce que, effectivement, le Liban, qu'on ne peut plus, que Israël ne peut pas obliger à être gentil avec lui, est en train de le menacer.
Voilà.
Alors, c'est un peu délicat de menacer le Liban, parce que le Liban, c'est un système politique compliqué, et il faudrait avoir l'unité de toutes les forces politiques et surtout de toutes les institutions à la tête du Liban pour arriver à trouver, enfin, pour arriver à ce qui se laisse faire par Israël. Or, c'est pas possible. C'est pas possible d'abord, parce que le président de la République ne veut absolument pas que Israël envahisse. Le président du Parlement, je m'arrête un peu sur lui. Le Parlement, alors, dans le partage interreligieux des pouvoirs au Liban, le président du Parlement, qui s'appelle M. Nabi Berri, appartient à un groupe chiite, qui n'est pas le Hezbollah, je précise, hein, qui s'appelle Amal.
Ouais.
Et ce monsieur a déclaré récemment, en disant, mais attendez, s'ils envahissent, moi aussi j'ai des troupes. Et donc j'irai accueillir comme il se doit les troupes israéliennes si elles essayent d'envahir le territoire libanais.
Et il est aussi bien armé.
Voilà, et il est armé, bah, peut-être un peu moins que le Hezbollah, d'après les renseignements qu'on a pu prendre, mais il est armé. Et il a dit, d'ailleurs, je mettrai mes troupes face à l'armée israélienne. Bon, quand vous avez le président de la République qui dit la même chose, effectivement, ça devient délicat. Et puis vous avez le Hezbollah, qui, je le rappelle, n'est pas au gouvernement, mais occupe des places, ils ont des places dans le Parlement, ils ont des élus, et ils ont des élus locaux, nationaux, et donc ils existent, et ils existent surtout militairement.
Surtout si ils sont classés comme terroristes.
Voilà.
Voilà.
Et alors ce que fait
les Occidentaux,
ce qu'a fait le Hezbollah jusqu'à ces jours-ci, depuis le début de l'opération donc à Gaza, c'est qu'il a commencé à tirer sur le nord d'Israël pour disant ne me touchez pas. C'est-à-dire c'était une façon de prévenir les coups. Plutôt qu'Israël tire sur le sud du Liban, c'est le Hezbollah qui s'est mis à tirer sur le sud d'Israël. Alors, pas des tirs très très intenses, ils n'ont pas tout rasé, mais le résultat, et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il est extraordinairement symbolique, c'est qu'il y a aujourd'hui une centaine de milliers de colons israéliens qui ont quitté le nord d'Israël. C'est-à-dire, et je vais donner toute sa force à ce symbole, c'est que la décolonisation de la Palestine a commencé. Entendez bien ce que je vous dis.
Oui.
La décolonisation de la Palestine a commencé il y a une centaine de milliers de colons qui s'est replié plus au sud en Israël. C'est-à-dire qu'il y a une bande de terrain qui est encore aujourd'hui le territoire de l'État d'Israël où il n'y a plus de colons. C'est ça le futur d'une nouvelle Palestine, c'est-à-dire un endroit... Alors, ils n'ont pas été assassinés, on ne les a pas bombardés, passés au napalm, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Simplement, il y a eu suffisamment d'échanges de tirs, de missiles et tout, pour que ces colons s'en aillent. Alors, il y en a qui se vengent, parce qu'on sait qu'une partie de ces colons descendent un peu plus au sud, en Palestine, et se mettent à tuer des Palestiniens, donc des territoires occupés, pour se venger de ce qu'ils ont subi. Mais bon, il n'aurait rien arrivé, ils auraient été obligés de partir.
De toute façon, le Hezbollah a toujours combattu l'armée. Hein.
Voilà, tout à fait.
C'est pas les civils.
Pas du tout. Ça, c'est la première donnée. Donc, le Liban n'accepte pas d'être agressé et envahi par Israël.
Ouais.
C'est différentes forces politiques, plus la force militaire du Hezbollah, qui est importante. Et puis, il y a eu donc une intervention de Nasrallah, donc le responsable du Hezbollah, qui a précisé, nous savons qu'Israël sera aidé dans une éventuelle attaque du Liban par la République de Chypre. Alors c'est très important de s'arrêter là-dessus, parce que la République de Chypre, elle est membre de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y aurait un pays membre...
L'OTAN.
Oui, il y aurait un pays membre de l'Union européenne qui participerait à la guerre du côté d'Israël contre le Liban. Alors on n'en est pas là, mais il l'a dit très clairement, et il a fait savoir que ça ne resterait pas sans conséquences. Et vous allez voir comment il l'a fait savoir. Il l'a fait savoir avec la réserve dont il est coutumier... Le Hezbollah a mis en circulation des vidéos filmées par des drones libanais.
Ah ouais, c'est formidable. Ouais,
où ils ont montré au monde entier, à tous ceux qui voulaient les voir, et je pense en particulier à l'état-major israélien, comment était organisé le port de Haïfa, où arrive le gros du commerce extérieur d'Israël, et ils ont survolé les usines d'armement d'Israël. Ça veut dire que puisque nos drones ils sont capables de survoler des usines d'armement d'Israël, le jour où avec le drone il y a un missile, le missile il va dans l'usine d'armement. Hein ? Vous avez compris le message ? Hein ? Il est très clair.
Et surtout le port.
Voilà, et surtout si le port. Oui, bien sûr, les deux.
Hein. Là où il y a les sous-marins.
Tout à fait. Hein. Donc, c'est un avertissement à Israël en disant, si tu commences à jouer à ça, à faire venir Chypre et tout, qu'est-ce qui va rester de ta capacité de résistance?
Alors, et le drone, c'est Hod-Hod.
Voilà.
C'est pas si.
Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Alors, vous voyez, alors là, on est encore dans la maîtrise de la situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tiré sur un bâtiment officiel, ils n'ont pas tiré sur le Parlement à Tel Aviv. Ils ont simplement mis en circulation des images disant on sait exactement où sont vos forces, sous-entendu, et aussi vos faiblesses, puisqu'elles sont visibles. On sait ce que vous préparez, on sait comment fonctionnent vos usines d'armement. Ne commencez pas. Ne commencez pas parce que vous risquez de perdre beaucoup plus que vous ne croyez. Ça, c'était la réponse à l'idée lancée donc par les Israéliens de dire on va être aidé par les Chypriotes. Alors les Chypriotes sont un peu mal à l'aise parce que c'est un gouvernement un peu faiblard et puis qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée par l'armée britannique. Il faut savoir que quand...
Il y a des bases.
Voilà. Il faut savoir que quand la Grande-Bretagne a très généreusement accordé l'indépendance à Chypre, c'est il n'y a pas longtemps, c'était en 1960, elle dit, bon, vous êtes chez vous, mais je garde un petit morceau pour moi. Alors, ce n'était pas pour prendre des bains de soleil dans ce climat magnifique, c'était pour laisser deux bases militaires très, très importantes qui sont à un quart d'heure de vol du Liban.
Ah oui.
Donc il y a deux morceaux du territoire de la République de Chypre qui sont en fait des morceaux de Grande-Bretagne.
Et un autre territoire à la Turquie. Il ne faut pas oublier que la
Turquie, en plus, a occupé le tiers nord de l'équipe de l'île de Chypre.
Et il fait partie de l'OTAN.
Tout à fait. Alors en plus, bon, on peut dire que les bases britanniques sont le résultat d'un accord qui a été signé par le nouveau gouvernement indépendant chypriote en 60. Par contre, la Turquie, on s'agit, je le rappelle, d'une invasion qui n'a jamais été condamné par quiconque, mais il s'agit d'une invasion avec une occupation militaire qui occupe un tiers de l'île quand même, c'est pas rien. Avec, il faut savoir qu'il y a, dans un pays d'Europe, Chypre est un pays d'Europe, il y a un mur de Berlin aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est pas bien, ça fait de la peine aux Turcs, ça fait de la peine aux... C'est ça la réalité. Il y a des barbelés au milieu de l'île de Chypre.
C'est vrai.
Hein, et il y a des checkpoints au milieu de l'île de Chypre. Alors, vous pouvez y aller en vacances et bronzer votre sou, en fait, n'oubliez jamais ça. Chypre, ce n'est pas un pays tout à fait indépendant.
Non.
Et donc, là, on a une nouvelle dimension.
Ils sont financés par l'OTAN, par l'Europe.
Et puis, ça, ils servent un peu de paradis fiscal, d'état de jambes. On voit ça.
Je sais qu'il y a un ministre chypriote qui a été au Liban.
Oui.
Et il a essayé d'apaiser.
Et oui, parce qu'il voit, parce qu'effectivement, la position du Hezbollah était claire, en disant si vous tirez dessus, nous aussi.
Hein.
Bon, vous avez bien compris. Hein. Bon, donc, on va éviter de le faire. Ça, c'est les données donc, stratégiques plus larges au sujet de la Palestine. Bon, sur le fond, la douleur, la misère,
la famine,
Gazaoui. Hélas, on n'a pas beaucoup plus de choses à dire d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire que ça continue comme c'est, et on se demande quelle est encore la capacité de résistance physique, morale, de tous ces habitants de Gaza.
Et ce qui me fait beaucoup de la peine, c'est les médias français qui n'en parlent pas, qui n'en parlent guère de ces Gazaouis qui meurent, de ces femmes qui se font tuer. Et surtout, pratiquement, il paraît que les élites de l'armée israélienne s'est tué plus de femmes et d'enfants.
Voilà. Oui, l'idée est très simple. Enfin, l'idée génocidaire, il faut regarder les choses en ouvrant les yeux. Un génocide, ça consiste à éliminer une population. Alors, on élimine les vivants. Et puis on élimine les dames qui vont avoir d'autres petits.
C'est ça.
On élimine les porteuses.
C'est vraiment vicieux comme.
Non, c'est un génocide progressif et prolongé. Mais ça, c'est très clair dans la tête des Israéliens. Alors, il y a des gens qui connaissent bien un peu l'histoire d'Israël qui pensent que, de toute façon, Netanyahou est inarrêtable tant qu'il est au pouvoir. Alors, si jamais il y a une révolte d'une partie de la population israélienne qui le renverse, c'est possible. Mais en tant que tel, il est inarrêtable. C'est le plus fanatique de tous les fanatiques. Hein. Les gens qui disent on va essayer de faire pression sur Netanyahou pour qu'il arrête ses généraux, c'est pas du tout ça. Le fanatique, c'est lui. Hein. Et tant qu'il est là, il continuera. Donc, les choses sont parfaitement claires.
Et il n'accepte rien.
Oui. Alors,
c'est sûr.
La société israélienne, elle est traversée maintenant de courants divers, mais on sait qu'une bonne partie de la réponse à la mauvaise santé ou la mauvais moral que peuvent avoir des citoyens israéliens, a une réponse en général très classique, c'est « j'ai deux nationalités, je m'en vais ». Ça devient invivable, ça suffit, on s'en va. Et, et apparemment, alors, il circule plus du tout de chiffres sur les sorties du territoire, mais un certain nombre de témoins confirment qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'en aller, parce que de toute façon, ils ont deux nationalités, ils ont des intérêts.
Double nationalité. Pratiquement tout Israël a double nationalité. Voilà. C'est américain, c'est anglais,
oui,
c'est
peut
un
peu
tout.
Oui, ça peut être partout, canadien.
D'ailleurs, même il y avait des Français qui combattaient là-bas.
Oui,
ils
tout à fait.
Ils avaient double nationalité.
Tout à fait. Ça sera plus simple. Bon, à suivre de ce point de vue-là. Et puis, on va parler un petit peu des gens qui s'occupent des affaires du monde un peu plus largement et plus sérieusement, puisqu'il va se tenir, ça commence aujourd'hui, un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui commence au Kazakhstan. Alors, c'est très intéressant parce que sont invités donc les membres de l'opération de coopération de Shanghai, qui, je le rappelle, organisation créée en 2000, donc qui a 24 ans d'âge, et qui met autour d'une même table dans une organisation. Ce n'est pas simplement un cocktail genre Briggs où on se serre la main, on dit qu'on va essayer d'avoir des échanges fructueux et égalitaires. C'est une organisation avec un secrétariat, des échanges de ministres, des échanges de fonctionnaires, des échanges de parlementaires, des échanges d'hommes d'affaires, des échanges d'étudiants, qui regroupent, je le rappelle, donc la Chine populaire, la Russie, l'Inde, et le Pakistan, dans la même organisation, ça c'est très très important, qui regroupe maintenant l'Iran, qui va accepter cette semaine le Bélarus, nouvel adhérent, et dans lequel il y a les républiques d'Asie centrale, donc les connues, Kazakhstan où se tient le sommet, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Il ne manque que le Turkménistan qui pour l'instant vit sa vie tout seul. Donc on a là une organisation constituée qui, du fait de l'intégration du Bélarus, va aller de la frontière polonaise jusqu'au détroit de Bering, c'est pas rien, une immense organisation qui fonctionne en tant qu'organisation, où il y a des discussions, où il y a des échanges, où on partage tout, et d'où on arrive à mettre autour de la même table des gens qui, quelquefois, sur le terrain, ne s'entendent pas très très bien. Je pense à l'Inde et au Pakistan, ça se passe pas toujours très bien.
Oui, hein.
Mais c'est très important que ça ait lieu maintenant, parce que une des
premières... Cachemire.
Voilà, il y a la question du Cachemire qui fait abcès entre les deux pays. Et puis, c'est très important qu'elle ait lieu maintenant et que donc le Premier ministre indien nouvellement réélu y vienne, parce que une de ses premières déclarations après son élection, moins triomphante que ce qu'on pouvait craindre, donc une de ses premières déclarations a consisté à dire « Ah oui, mais la frontière avec le Tibet, c'est pas tout à fait ça qui me convient, etc. » Il a recommencé à mettre de l'huile sur le feu sur les relations entre la Chine et l'Inde. Alors là, ce geste-là, je pense que ça va se discuter même dans les couloirs de l'Organisation de coopération de Shanghai, parce qu'il ne faut pas que cette espèce de discours, alors on connaît ce qu'il est, c'est un discours nationaliste, hindouiste, farouchement anti-musulman, etc., enfin ça ne touche pas les Chinois, mais ce discours, je pense, c'est un discours de prise de pouvoir par M. Modi. Je pense qu'il faudra qu'il comprenne bien et que l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, lui permettra de bien comprendre la réalité des rapports de force. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui à la tête du pays le plus peuplé du monde. Alors, cocorico, je suis le plus peuplé. Mais il est quand même très, très largement en retard sur le plan économique. Ça n'a rien à voir avec la Chine populaire, l'Inde. Donc
ce que je voudrais dire, à Shanghai, on discute.
Mais exactement. On discute et on est dans une organisation avec des statuts, des présidents de séance, des règles, des comptes rendus, des rapports, etc. Et on discute autour de la même table. Et donc, on résout
les problèmes.
Voilà, et on a là tout le monde, depuis donc, le Bélarus, en passant par l'Iran. Bon, donc ça, c'est très positif que ça ait lieu maintenant. Et je pense que c'est de nature à calmer les propos nationalistes dont il ne peut pas se passer. Manifestement, ça fait partie du personnage maudit. Il est toujours prêt à en dire un mot de trop. Alors, il va être un peu limité, je finirai là-dessus, sur le plan indien, parce que le parti du Congrès, le parti traditionnel de la famille Gandhi, Nehru, etc., a commencé à s'occuper, à prendre en charge les intérêts des musulmans indiens. C'est pas rien, c'est 200 millions de personnes sur un milliard. Bon. Et ce que, pour l'instant, il ne s'était pas tellement préoccupé de ce problème. Et face à l'accroissement de la position nationaliste, hindouiste, farouche et excessive de Modi, il a commencé à dire, et ça s'est dit au moment de la campagne électorale récente, qu'il allait défendre le droit de vivre des musulmans.
C'est ça.
Hein, le droit du sol, être né quelque part. On y revient toujours. Merci, Maxime.
Toujours pareil.
Merci, c'est Maxime. Hein, et donc, tout ça se joue calmement sur place au Kazakhstan. Et il y aura ensuite, à la fin de la semaine, deux visites officielles du président chinois, l'une au Kazakhstan, l'autre au Kyrgyzstan, où on parle là plus des affaires concrètes de relations entre les pays. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que, à travers tout ce marasme en début d'émission, c'est-à-dire, regardez, l'Occident, il est dans un état de délabrement à peine croyable. Hein, les États-Unis, entre un sénile et un fou furieux, on ne voit pas où ils vont. L'Europe, elle est divisée, qu'elle n'en peut plus. La France, elle n'est pas très très bien non plus. Bon, en fait, on a de l'autre côté, du côté de l'Eurasie, du côté des grandes puissances nouvelles, ce qu'on appelle le Sud global, mais je n'aime pas trop l'expression parce que la Russie n'est pas vraiment du Sud. Hein. Bon, on a des gens qui sont organisés, qui travaillent, qui réfléchissent et qui ne sont pas toujours en train de sortir leur pistolet pour régler les problèmes.
Ça et du côté pas. Du Moyen-Orient, la Syrie actuellement avec la Turquie a un assouplissement.
Tout
je voudrais le dire.
Tout à fait, tout à fait.
Bon,
tout à fait.
D'ailleurs, alors, aboutira,
alors,
oui.
Dernier mot, c'est, l'assouplissement a été tellement sensible dans les cercles occidentaux, à l'OTAN et tout, que Emmanuel Macron s'est payé le luxe de rappeler que la France avait lancé un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad il y a plusieurs années. Ouais. Alors, je rappelle les faits. Il y a eu donc en 2013 une attaque de produits chimiques sur le territoire de la République arabe syrienne.
Casque blanc.
Bon. L'Organisation internationale pour le contrôle des armes chimiques est intervenue à envoyer des délégués, des experts, qui ont tiré la conclusion que ce n'était pas le gouvernement syrien qui avait été à l'origine de ces bombardements chimiques.
C'est ça.
Ce rapport de ces experts de l'OIC a été étouffé et la direction de l'OIC, manipulée par les États-Unis, a refusé de le rendre public. Mais il est connu, ce rapport. C'est-à-dire qu'on sait, et par des gens neutres, experts, que ce n'était pas le gouvernement syrien qui avait organisé les attaques aux produits chimiques à Ghouta en 2013. Bon. Mais ça n'empêche que M.
Surtout
Macron...
Surtout, on a nettoyé la Syrie du produit chimique.
Bien sûr.
C'est
en plus,
les Américains, quoi.
En
bon,
plus,
voilà.
Il faut savoir que ça a été le déclenchement donc, de la vente, enfin, de la suppression et de la destruction de la totalité du stock d'armes chimiques de la Syrie sur un navire américain dont c'est le métier, comme ils sont bien organisés, ces gens. Voilà. Bon, ben merci de votre attention. On se retrouvera la semaine prochaine et on se retrouvera surtout mercredi prochain pour une émission spéciale Amérique latine avec deux des meilleurs journalistes français sur l'Amérique latine. L'un qui s'appelle Maurice Lemoine, qui est familier du monde diplomatique, et l'autre qui s'appelle Romain Migus, qui anime un site qui s'appelle Les Deux Rives et qui ont fait une conférence passionnante sur les réalités de l'Amérique latine. Merci Roselyne, merci Sonia.
Merci à toutes les deux.
Bonne semaine à tous.